2. Babel, Gabriel de Sarzin.
Le Sahel est une vaste bande de terre aride qui constitue la rive sud du désert du Sahara, une bande de terre où des groupes armés répandent aujourd'hui encore la violence et la peur. Mais que disent ces habitants mauritaniens, maliens, burkinabés, camerounais de la radicalisation islamiste? Vous écoutez Babel, bienvenue à vous. Fabien Nunberger, bonjour.
Bonjour.
Vous nous ferez entendre dans quelques minutes des chercheurs qui se sont penchés sur la radicalisation religieuse islamiste qu'on observe dans la région du Sahel et sur ses dérives djihadistes. Mais avant cela, on va entendre une personne en Suisse que cette situation touche de près.
Oui, il s'agit du fils d'une femme qui a été prise en otage par des islamistes au Mali. Cette femme est française, elle s'appelle Sophie Pétronin, 73 ans. Elle était installée à Gao depuis quelques années. Elle s'occupait notamment d'un centre de soins pour les enfants. Or, elle est aux mains de ravisseurs depuis le 24 décembre 2016. C'est la seule Française actuellement aux mains des islamistes sur les 6 otages détenus actuellement au Sahel.
Et son fils Fabien, lui, habite en Suisse romande.
Oui, à Porrentruy pour être plus précis, où Sébastien Chado Pétronin est restaurateur. Mais son second métier, si j'ose dire, désormais, c'est négociateur, puisqu'il se rend régulièrement en Afrique pour le compte du comité de soutien de Sophie Pétronin, afin de tenter de faire libérer sa mère. Alors il a accepté d'évoquer le moment où il a appris la terrible nouvelle.
On l'apprend un matin au réveil, elle s'est fait enlever. Et on avait parlé de ça avec elle. On avait même des directives, nous, la famille, à suivre, hein, si telle chose arrivait. Et puis, cette fois, on est dedans. Ouais. J'ai eu des interlocuteurs au Quai d'Orsay, déjà, pour acter la situation, hein, de manière officielle. Et puis, une heure plus tard, je les ai rappelés et je leur ai dit, moi, je me rends sur place, c'est très important, pour veiller à ce que le nécessaire soit fait dans les premiers temps de l'enlèvement.
Quelle connaissance est-ce que vous aviez de cette mosaïque djihadiste quand ça vous est tombé dessus?
Finalement, avec le recul, je me dis que je savais peu de choses à l'époque. Mais j'avais quand même une bonne perception. Je m'étais rendu sur place à de nombreuses reprises et j'avais des amis capables de se mettre en danger pour moi, indirectement pour ma mère. Et j'entendais bien pouvoir me rapprocher de ces gens-là pour essayer d'apporter un maximum d'aide et de soutien à ma mère.
Aujourd'hui, est-ce que vous avez une vision claire de qui sont les ravisseurs et leurs revendications exactes?
Pas assez précise pour techniquement savoir si ma mère peut s'en sortir et dans quelle notion de temps.
Mais disons rien que déjà l'identité du groupe ou de la personne qui détiendrait la clé, on va dire ça comme ça.
C'est un double problème. Le premier problème étant qu'on a face à nous une évolution des responsabilités, une évolution des décideurs, une évolution des groupes qui se sont alliés ensemble et qui peuvent, à un moment donné, être moins alliés ou plus alliés. Donc ça, c'est un problème. Et ensuite, on a aussi un problème de temps. Ce qui était vérifié il y a un mois, deux mois, trois mois, ne l'est plus. On peut dire qu'on s'appuie sur une preuve de vie.
C'est la vidéo, la preuve de
voilà,
vie, j'imagine. Hein.
Cette vidéo, mais trois mois se sont écoulés et aujourd'hui, on n'est plus du tout sûr de rien.
La lecture qu'on fait de ces événements, c'est que des islamistes l'ont kidnappé, mais en même temps, il y a différents groupes, Ansardine, Acmi, des groupes moins connus, je crois, Al-Morabitoun. Vous arrivez à distinguer qui veut quoi, qui fait quoi?
C'est vrai que j'ai fait une énorme enquête. J'ai essayé de comprendre quels étaient les gens qui étaient en face de moi. Effectivement, il y a divers groupes. Il y a des interlocuteurs qui peuvent disparaître. Dans tout ce schéma, il y a des gens qui, entre-temps, sont morts. Bien sûr qu'il faut essayer de comprendre ce qui se passe. Il y a des gens qui sont extrêmement puissants dans ces diverses organisations et qui, pour l'instant, ne sont pas sortis du bois, c'est-à-dire on n'a pas eu affaire à eux. Et inversement, il y a des gens qui paraissent ne pas avoir beaucoup d'importance, qui sont malgré tout incontournables.
Il y a juste un nom, se faire d'une personne qui est sortie en lien avec le milieu des ravisseurs, je crois que c'est Yad Ag Khali. C'est un nom que j'ai lu quelque part dans la presse. Ce serait potentiellement un des ravisseurs? On peut en parler ou ça fait partie aussi des choses que vous ne commentez pas?
Je ne sais pas si on peut en parler ou pas. Tout le monde le connaît, Yad. C'est d'ailleurs assez cocasse, mais Yad faisait partie de ces chefs Touaregs qui assurait les voyages touristiques pour des Occidentaux qui partaient à la découverte de ce pays, de ses traditions, de ses peuples. Certains d'entre nous l'ont côtoyé dans les années 95. Il y a une année en arrière, l'IAD s'est posé au milieu de plusieurs forces en présence, de plusieurs forces combattantes, et est en train de mener une sorte d'offensive, il est en train de se poser comme une des pièces maîtresses de la rébellion. Donc, je pense qu'il n'est pas la seule personne qui a du poids dans cette affaire, mais effectivement, c'est quelqu'un qui compte beaucoup dans cette affaire.
Vous avez fait récemment un voyage en Mauritanie. Vous avez pu vous rapprocher de votre mère ?
Oui, ce dernier voyage a été très instructif. Et je sens que je me rapproche d'elle. Et je ne peux pas vous donner de détails parce que ce n'est pas le moment pour ça. Et puis, je ne veux pas commettre de faux pas parce que ça devient de plus en plus difficile parce que j'ai l'impression de me salir de plus en plus les mains.
Vous avez eu des nouvelles de son état de santé, de comment elle va ?
Certaines personnes à qui j'ai parlé récemment et que j'ai vues récemment, ne voulant pas me répondre, m'ont quelque part répondu. Je suis toujours dans cette anxiété parce que je sais qu'elle est malade, parce que je sais qu'ils veulent trouver une solution rapide et qu'ils ne souhaitent pas la garder. Donc ça me remplit d'anxiété quelque part, mais peut-être que ça aura un côté positif et que rapidement on trouvera une solution. Les gens qui détiennent ma mère font tout pour alléger sa souffrance et la traitent d'une façon digne et la respectent. Bien sûr, ils l'ont privée de sa liberté. Ne nous trompons pas de cible, nous avons en face de nous des gens qui sont sans scrupules. Mais, personnellement, je n'ai pas ni de colère, ni de haine, ni de compte à régler avec les gens qui détiennent ma mère. Et je pense que c'est une bonne attitude parce qu'on trouvera une solution à ce conflit si on adopte cette attitude-là. Et je pèse mes mots, finalement, le problème de ma mère, est-ce que ce n'est pas une représentation du problème général qu'on a avec le Sahel, qu'on a avec le djihadisme ? Est-ce que ce n'est pas révélateur ? Est-ce que si on arrive à trouver une solution pour sortir ma mère de là, est-ce qu'on ne peut pas imaginer une solution à plus grande échelle pour essayer de régler des choses ? Et pour arriver à ces solutions-là, je pense qu'il faut évacuer la colère, il faut évacuer le jugement. Nous n'avons pas non plus été exemplaires, nous, occidentaux. Ces populations sont démunies, n'ont pas accès aux fondamentaux, boire, manger, se vêtir, se loger. Ils sont face à cette réalité-là, et je crois que les juger pour leurs actes, alors qu'on baigne, nous, ici, dans un confort extraordinaire, je crois que c'est un raccourci qui, pour moi, est beaucoup trop facile.
Le témoignage de Sébastien Chado Petronin, fils de Sophie Petronin, aux mains d'un groupe islamiste au Mali. Un témoignage que l'on pourra entendre dans une version plus longue ce soir sur La Première, Fabien.
Oui, dans l'émission Haute Fréquence, à 19h, on reviendra plus en détail sur la figure de Sophie Petronin, mais aussi sur le travail qu'accomplit son fils pour tenter de la faire libérer.
Un témoignage qui nous fait entrer de plein pied dans la complexité de la radicalisation au Sahel, avec des noms auxquels on n'est pas très habitué, hein, l'IAD Aghali, le groupe Ansar Dine. Mais ce que vous nous proposez maintenant, Fabien, c'est une expertise réalisée récemment pour le compte de l'ONU sur ce sujet.
Oui, qui s'appelle « Radicalisation, violence et insécurité, ce que disent 800 Sahéliens ». Ça a été présenté il y a 10 jours au Palais des Nations à Genève par 3 de ses artisans. Un rapport qui synthétise 800 entretiens réalisés au Sahel, qui s'intéresse à la manière dont les gens du CRU, les sans-grades, comprennent et expliquent les éruptions de violence qu'on observe dans cette zone depuis quelques années. Une analyse où l'on croise des noms relativement connus, hein, Al-Qaïda au Maghreb islamique, ACMI, mais aussi des formations plus locales.
3 experts que vous avez interrogés.
Alors les 3 intervenants, je vous les présente. Il y a Reda Benkiran, sociologue, c'est lui qui a mené cette recherche pour le compte du Centre Henri Dunant pour le dialogue humanitaire. Il y a Claude Mbowou, qui est politiste, chercheur attaché à la Sorbonne, responsable de la cellule d'enquête pour le nord du Cameroun. Et puis Isaïe Dounion, professeur d'anthropologie à Bamako et à l'université Fordham à New York. Alors on va commencer par Reda Benkiran, qui explique l'originalité de cette recherche.
C'était au départ une mission impossible, mais il y avait 2 éléments qui m'ont paru extrêmement intéressants. C'était d'abord que ce soit une étude des perceptions, qu'on s'intéresse à ce que pensent les gens qui sont confrontés directement à ces phénomènes de violence, à ces phénomènes de guerre, à ces phénomènes d'insécurité, de ne pas avoir la parole venant d'en haut, des experts, des acteurs politiques, des médias aussi, s'il faut le dire, mais d'entendre les voix des gens qui sont justement invisibles et hors de portée. Donc c'était ça qui était très tentant. Et l'autre aspect, c'est que on m'a confié cette mission en me disant « fais ce que tu veux ». Et ça aussi, c'était très, très exaltant parce que j'ai voulu travailler de manière différente en privilégiant la recherche avec des universitaires de ces pays les plus à même de relever ce défi d'aller à la rencontre des habitants du Sahel et de recueillir leur voix, leur expérience.
De manière très ramassée, le nombre de pays, le nombre de jours, pour caractériser l'opération, qu'est-ce que vous mettriez en avant ?
8 pays d'enquête, 8 équipes de chercheurs, en tout un personnel scientifique d'une centaine de personnes et plus de 800 entretiens menés avec les habitants. Les Nations Unies nous ont demandé de faire tout cela en 5 mois dans des zones de danger, et je dois préciser que toutes nos équipes ont été à la rencontre des habitants sans encadrement de forces militaires ou sécuritaires. Et ça a été aussi un garant d'autonomie et de crédibilité de nos équipes. Claude Mbou, qui est là, a travaillé dans l'extrême nord, dans des zones où...
Extrême nord du
Cameroun, dans des zones où les ONG occidentales, y compris le CICR, ne circulent que sous encadrement de forces de sécurité. Et Claude Mbowo et son équipe ont travaillé directement sur le terrain de la radicalité et de la violence extrême.
Alors je vais me tourner vers vous, Claude Mbowo. Avant d'entrer dans le détail, c'est dangereux de se rendre dans cette zone-là ?
Cela l'est sans doute, mais ce n'est qu'au microscope qu'on peut regarder très précisément ce qui se passe, pas à la longue vue. Et la présence des chercheurs sur les terrains est un enjeu. Et faute de cette présence, vous imaginez bien tout le stock de savoir dont on se prive.
Quelle est l'image que vous vous faites de l'ensemble de leurs réponses ?
Ce que j'ai compris pour l'essentiel, il y avait de façon manifeste, non pas l'idée d'une violence venue d'ailleurs, uniquement importée, uniquement imposée à la société locale, mais une société locale qui se servait de la violence comme moyen de prendre la parole. Ce sont des groupes se sentant marginalisés, se sentant opprimés, qui ont trouvé l'opportunité de s'emparer d'une violence qui était disponible, accessible par la frontière, parce qu'il faut encore repréciser les choses. Boko Haram prend racine au Nigeria, voisin, en 2009. Cette organisation qui est initialement une espèce de secte religieuse devient mouvement armé en réaction à la répression qu'elle subit de la part de l'État nigérien. Et donc, il y a une espèce de mouvement social armé qui se constitue au niveau de cette frontière. Sauf que son discours, qui devient discours anti-État, anti-élite, contre les institutions de la modernité, considérées comme oppressives pour ces sociétés parce qu'elles ne prennent pas part aux gains de l'État, ce sont les perdants de la modernisation qui se reconnaissent dans ces discours. Donc voilà, je crois, le schéma global qu'il faut avoir lorsque on essaye d'analyser ce qui s'est passé ou ce qui se passe. Évidemment, il y a certes au cours des 20 ou 30 dernières années, des nouveaux mouvements religieux qui ont pris racine dans cette zone de l'Afrique à partir des connexions établies avec l'Arabie Saoudite par des réseaux de jeunes gens allés étudier la théologie dans les grandes universités du Soudan, de l'Égypte et consorts. Il y a des organisations humanitaires islamiques qui se sont établies, mais ça participe d'un mouvement général du monde. Sauf que, j'aime bien en parler comme d'un populisme religieux, si ce populisme prend, comme tous les populismes qui sévissent dans le monde, s'ils réussissent à prendre, à s'ancrer, c'est parce qu'il y a des failles à l'intérieur des sociétés. Et c'est à partir de ces failles-là qu'elles réussissent ou qu'ils réussissent à s'enraciner.
Vous auriez un exemple, peut-être, un ou deux exemples de trajectoires individuelles qui illustrent ce que vous dites, ce populisme religieux, ces idées venues par la frontière et dont on se saisit pour dire des choses aux dominants, au gouvernement, à l'État.
Peut-être devrais-je vous parler de cet homme qui venait d'être libéré alors qu'il avait été fait otage par Boko Haram, très proche du lac Tchad. Il occupait une maison plutôt cossue par rapport aux standards locaux. Il était usurier et lui-même fils d'un grand commerçant usurier. Et ceux qui me racontaient l'histoire ne semblaient pas particulièrement compatissants à son égard. Et ça m'a permis du coup de mettre le doigt sur un certain nombre de tensions, de clivages, et les rapports très ambigus des sociétés locales à cette insurrection qui pouvaient apparaître à bien des égards comme non pas l'espèce de monstre qui nous répugne à nous, mais une espèce de police locale à travers le sort de cet homme. Ses victimes pouvaient se sentir vengées. Et peut-être si on avait compris tous ces petits détails de la crise interne de ces sociétés, on aurait été moins prompt à avoir une approche simplement manichéenne de cette violence, avec l'idée qu'il y aurait d'un côté des bons et de l'autre côté des types simplement méchants.
Je vais peut-être me retourner vers vous, Reda Benkiran. Une des choses qui apparaît dans le rapport, c'est qu'un certain nombre d'interviewés ont tendance à considérer la présence de groupes type Boko Haram un peu comme une potion, comme un médicament, certes qu'on n'a pas du tout envie de prendre, comme une purge, mais qui dans le fond va purger la société d'un certain nombre de maux et qu'il s'agit d'avaler cette potion, laisser faire, voire même d'être de connivence avec ce radicalisme pour qu'il opère une transformation positive de la société. Est-ce que c'est une conclusion qu'on peut tirer de cette enquête ?
En fait, on voit énormément de choses, parfois extrêmement contradictoires. Mais par rapport à ces mouvements djihadistes, vous avez une majorité de gens, il faut le dire, qui perçoivent les djihadistes, donc ces mouvements armés, comme simplement des bandits, des gens qui sont motivés par l'appât du gain, qui arrivent à enrôler les jeunes parce que les jeunes n'ont pas de perspective d'évolution. Et voilà, c'est ce que nous disent les enquêtés. Voilà, tu es jeune, tu n'as aucune perspective, et puis Boko Haram t'engage, tu as une moto, tu as de l'argent, on te donne une femme. Enfin, vous voyez, c'est des choses extrêmement concrètes comme cela qui font que, en tout cas, une réponse massive de nos enquêtés montre que le basculement vers cet extrémisme violent d'expression religieuse, si vous voulez, n'implique pas forcément la religion. Ce n'est pas une cause religieuse. La religion exprime des violences, des conflictualités, mais que les motivations sont surtout d'ordre matériel, économique. Dans le cas du Mali, ce qui est ressorti très fort, c'est que, dans un premier temps, c'était une quête de justice. Et le fait que la justice n'est pas proclamée, n'est pas instaurée dans des conflits locaux, pastoraux, dans un premier temps, c'est ça qui a fait le succès des mouvements djihadistes qui, au nom d'une loi d'inspiration religieuse, voire divine, ils ont eu un rôle d'arbitrage dans une certaine mesure. Mais je pense que Isaïe pourra vous en parler plus en détail.
Alors on va se tourner vers vous, Isaïe Dounian. Quel terrain avez-vous exploré durant cette enquête ?
Bon, moi j'étais le coordinateur pour le Mali, donc nous avons divisé en trois groupes. Nous avons pris la frontière Mali-Mauritanie, Mali-Niger et Mali-Burkina. Par ma formation, je suis un homme de terrain. J'ai fait toute cette zone pour mes recherches doctorales et recherches postdoctorales. J'ai fait le Nord, la jeune Tombouctou, et je suis de la région de Mopti.
Comment est-ce que vos enquêteurs ont été accueillis ? Est-ce que les gens étaient contents de parler ou est-ce que vous touchiez des points délicats ?
Nous avons vraiment touché des gens qu'on peut considérer comme des marginaux, des gens que généralement les développeurs, les experts au développement, les ONG ne touchent pas. Quand ils arrivent au village, ils invitent seulement les chefs pour discuter, mais ils ne touchent pas vraiment ceux qui sont dans les champs. Et donc les gens d'abord étaient très contents de dire « Ah, enfin, il y a une équipe qui vient nous demander comment nous vivons cette crise ». Et quelle est la solution que nous voyons dans cette crise, au-delà de ce qu'ils entendent dans la presse nationale et internationale ?
Et là aussi, alors quelle image, après cette enquête, vous avez de ces questions de radicalisation, de violence et de sécurité et insécurité ?
Oui, c'est des vrais problèmes. Il y a la radicalisation, parce que tout simplement le Mali était un nid pour des groupes comme Al-Qaïda au Maghreb, qui étaient descendus du sud de l'Algérie vers le nord du Mali. C'est là où ils prenaient les otages, mais ils prenaient aussi les otages dans les pays du Maghreb dans les années 2000, et tous les otages européens étaient libérés au Mali. Et c'est des millions et des millions, des centaines de millions d'euros qui ont été versés à ces gens qui étaient basés dans les montagnes des Igargar, qui étaient à la frontière de l'Algérie et le Mali. Ils sont bien enrichis et ils sont bien dotés d'armes. Et voilà, donc, c'est avec ces armes qu'ils ont attaqué finalement le Mali en 2012, et surtout grâce aussi aux armes qui sont rentrées de la Libye. Au départ, les relations entre les populations locales et ces groupes djihadistes étaient des relations très cordiales. C'est ce que les gens disent. Ces gens, ils venaient prendre l'eau chez les paysans. Et chaque fois qu'ils venaient prendre de l'eau, ils demandaient si dans le village il y a des nouvelles naissances pour faire les baptêmes. Donc ils donnaient des moutons. Et c'est très important pour les paysans de partager ce que tu as avec tes frères. Et ces gens le faisaient. Ils venaient avec des armes, mais ils n'attaquaient pas les villages. Ils disaient, bon, nous sommes tous des musulmans et on fait les baptêmes. Et moi-même, j'ai vu plusieurs fois les groupes de djihadistes en train de se promener librement. Et c'est comme ça que j'ai dit à mes étudiants, prenez telle zone, parce que là, vous allez trouver des très bons récits sur ces gens-là. Mais ce n'était pas du tout négatif. Parce que jusqu'à ce que les rebelles Touareg attaquent le Mali en 2012, ils ne faisaient pas vraiment des actions de violence. Au contraire, c'était dans un processus de sympathie, de créer la sympathie entre eux et les locaux. Donc il y avait des intermariages, ils étaient les mosquées qui étaient en train de tomber, ils étaient à construire. Ils étaient très très riches parce que, comme je vous ai dit, ils avaient eu beaucoup d'argent avec les rançons et aussi avec la route de la drogue, de la migration qui était, le Mali était le pays où beaucoup de migrants passaient avant 2012.
Pour qu'on comprenne bien, quand on dit « ils », ce sont des groupes nomades.
Oui, c'est plusieurs. Bon, je parle des djihadistes, je parle des groupes islamistes.
Je reprends juste la question. Pour qu'on comprenne bien, la question de la mobilité est assez déterminante. Il y a des gens qui bougent, d'autres qui bougent moins. On a besoin de comprendre, quand vous dites djihadistes, par exemple, s'agit-il de nomades ou de sédentaires?
Dans les langues locales, ils les appellent pas les djihadistes. Ils les appellent les salafistes. Les gens qui prêchent la religion pure et dure, ils ne faisaient pas vraiment de prêche. Hein. Ils venaient juste du nord, de Kidal, et leur identité n'était pas très claire. Mais les paysans disent, oui, ce sont des Algériens. Voilà, ce sont des Arabes, des Algériens. Au début, c'est ce qu'ils disaient. Maintenant, avec 2012, il y a eu plein d'autres groupes, parce qu'il y a eu d'autres groupes qui sont nés, comme le Mujao, qui était essentiellement des Africains, des subsahariens, et aussi un mouvement local, national, qu'on appelle le Front de Libération du Massina, qui était essentiellement malien.
Et si on revient donc vraiment à la perception qu'ont les gens, comment est-ce qu'ils perçoivent la dynamique de ces groupes, est-ce qu'ils, aujourd'hui, ils la jugent positive, négative, en quels termes?
Pour les populations, s'il n'y avait pas eu la rébellion de 2012, les populations pensent les responsables sont des Touareg maliens. S'il n'y avait pas eu la rébellion, ils estiment que ce qu'on appelle les radicaux, les islamistes radicaux, ils n'auraient pas attaqué le Mali. Donc, avec l'aide de la France, comme ils disent, puisque les Français ont supporté la rébellion Touareg, parce que les Touareg qui étaient en Libye devaient quitter, abandonner Kadhafi pour rejoindre leur patrie d'origine. Et la promesse que l'OTAN ou la France auraient fait à ces gens, c'est que s'ils viennent au Mali, on va les créer une autonomie, un territoire qu'on va les aider. Ils vont mieux vivre au Mali qu'en Libye en supportant Kadhafi. Donc ces gens sont venus, donc ils ont dit nous voulons créer notre territoire. Et ils ont commencé l'attaque. Et donc les djihadistes, ce qu'on appelle les djihadistes, ont profité de cette occasion pour pénétrer dans la lutte. Et finalement, qui ont dit nous allons lutter ensemble, mais nous n'allons pas demander la création d'un territoire indépendant, mais nous allons imposer la charia. Et donc, après qu'ils aient occupé le nord du Mali, entre eux, il y a eu la bagarre. Il y a eu la bagarre parce que le MLA, donc le mouvement qui représentait les Touareg dans le Mali, ils ont demandé l'autonomie. Et les djihadistes, Acmi, Ansardine, c'est un Malien. Ansardine, ça a été créé par un Malien qui s'appelle Yad Agagali, qui a dit non, ce ne sont pas pour ça. Ne sont pour la charia. La population souffrait entre les deux. Et voilà, c'est comme ça les djihadistes ont chassé le MLA hors du Mali. Et quand ils ont chassé donc ces gens, la France a intervenu. La France a intervenu vers le sud, donc près de Mopti. Et après, ils ne sont pas allés très vite au nord. Et donc, ces mouvements se sont éparpillés. Donc, comme ils étaient très bien infiltrés dans la société, ils sont éparpillés. Et quand la France partait à Tombouctou, il n'y avait plus de djihadistes. Quand ils partaient à Kidal, il n'y avait plus de djihadistes. Quand ils partaient à Gao, ils étaient tous partis. Donc maintenant, ils attaquent tout le temps, ils fabriquent des bombes. Et donc l'insécurité, tant que les Français sont là, les munitions sont là, nous n'allons jamais abandonner. Et donc c'est pourquoi les populations locales disent que le gouvernement du Mali doit négocier avec les dirigeants radicaux, parce que c'est des Maliens qui ne veulent pas la division du pays. Ils sont pour l'islam. L'islam, c'est notre culture. Donc, il faut négocier avec eux. Le Mali est une vieille terre d'islam. Il faut maintenant dire quel type d'islam vous voulez. On peut s'entendre. Les populations locales vous diront, parmi eux, il y a de bonnes personnes. Il faut discuter avec eux comme ça. Peut-être on trouvera une solution.
Prenons l'État. Dans le fond, comment est-ce que les gens considèrent la nation, l'État, le gouvernement, les organes politiques de l'État présents dans leur région? Quel rapport ils ont avec tout ça?
Le Mali est un grand pays, très pauvre. Et donc, l'État ne pouvait pas délivrer tous les services de base. Les zones les plus reculées étaient encore souffraient plus, surtout les zones frontalières. Il y avait ce débat quand le Mali entre dans la démocratie, le processus de décentralisation pour permettre aux populations de se gérer, parce qu'il y a eu beaucoup de plaintes de l'absence de l'État ou de l'État injuste. Il y avait des conflits internes, et dans la gestion de ces conflits internes, le juge, les forces de sécurité sont perçus comme des gens qui cherchent à remplir leurs poches en profitant de la gestion de ces conflits que de trancher. Et c'est très intéressant parce que quand ils comparent les gens de l'État et les islamistes, ils disent que les islamistes, ils sont vraiment justes. Quand tu as volé, on te coupe le bras. Quand tu as tué, on te tue. Mais le juge, il est... Bon, le dossier, ça s'empile. Après, le voleur gagne, le plus riche gagne, celui qui paye le plus, il gagne. Donc, il y avait ce discours, effectivement, qui a quand même été un grand déclencheur du fait que beaucoup de jeunes ou beaucoup de personnes ont suivi ceux qui sont venus dire que, bon, nous allons vous aider à faire un état droit avec l'application de la charia.
Khaled Ben Kiran.
On aurait tendance à croire que l'État est une création récente post-coloniale. Cette région a une tradition étatique extrêmement ancienne et extrêmement riche. Dans cette zone ont existé de grands empires. L'empire du Ghana, l'empire Songhai, l'empire Kanem-Bornou, dans la région dont la capitale était autour du Tchad, qui a duré près de 1000 ans, c'est-à-dire jusqu'au début du XXe siècle. Au XIXe siècle, des théocraties, des États islamiques ont été créés par des mouvements soufis. Le soufisme dont on dit aujourd'hui de manière un petit peu cliché que c'est le contre-modèle, c'est l'islam tolérant et pacifique. Mais si vous analysez l'histoire religieuse, vous vous rendez compte que les confréries soufis ont proclamé des jihads violents et ont fondé des États comme le califat de Sokoto dans la région du nord-est Nigeria dont se réclame idéologiquement Boko Haram. Donc, ils se mettent dans une continuité historique. Le drame de l'État postcolonial dans la région, c'est qu'il n'a plus cette connexion à la profondeur historique et à l'étendue géographique du Sahel. De même, sur la question de l'islam, ce serait une fausse conclusion de penser que l'islam est simplement une affaire d'importation. Au Mali, vous avez une longue tradition théologique de tout premier plan. Et dans l'étude qu'a menée Isaïe Dounian, ce qu'il apparaît dans les différentes régions, la région de Tombouctou est celle qui a résisté le mieux à l'extrémisme violent. Les jeunes de cette région n'ont pas basculé dans la violence. Et l'explication qui peut être généralisée au-delà de Tombouctou, c'est que Tombouctou, c'est une ville, c'est un centre, c'est une capitale spirituelle, théologique, intellectuels, des bibliothèques, et qu'il y a une haute éducation religieuse. Et là aussi, beaucoup d'études dans le monde sociologique montrent que l'inculture religieuse, la crédulité, sont les conditions de l'embrigadement dans un extrémisme violent d'inspiration religieuse. Beaucoup d'instruction religieuse est une forme de prévention. Donc, contrairement à une vision intuitive, quelqu'un qui est enraciné dans un fondamentalisme religieux ne bascule pas vers la violence religieuse.
Isaïe Dounian.
Je voulais dire, comme notre étude le montre, il faut écouter les gens, le bas peuple. C'est eux qui ont la solution. Il faut prendre ça et travailler sur ça et faire cette application. Que chaque fois, mon autre président dit, je vais combattre tous les islamistes. Je ne vais jamais négocier avec eux parce que les Européens lui disent « tu ne négocies pas avec eux ». Mais pourtant, les populations lui disent « négocie avec eux ». Koufa est un bon musulman, il se bat parce qu'il vient de cet empire Peul du Massina qui était un empire théocratique. Donc, il veut que les relations entre les nomades et les pêcheurs soient réglées comme au temps de la Dina. La Dina, c'est vraiment un système de gestion des terres et des eaux entre les populations de Delta intérieur du Niger. Et il veut qu'on revienne à ça. Donc je pense que ce n'est pas que nous n'avons pas une civilisation musulmane étatique, c'est parce que nous faisons face à des nouveaux enjeux. Parce que si vous regardez le nombre de morts au Mali par an, c'est énorme. C'est quelque chose que nous n'avons jamais connu. Et les solutions qu'on propose sont des solutions très rapides et souvent imposées de l'extérieur. Et ça, c'est très important de dire. Ce n'est pas des solutions qui viennent du bas peuple.
J'aurais envie de faire une focale sur la question de l'éducation. Boko Haram, son nom lui-même renvoie à la question de l'éducation à l'occidental qui est un péché. Ces jours-ci, récemment, au Cameroun, des écoliers ont été kidnappés. Au Mali, j'ai vu que des écoles ont dû fermer sous la menace d'intervention de Boko Haram ou de groupes affiliés. Donc il semble que les écoliers, peut-être les étudiants, soient une cible particulièrement prisée pour manifester une présence sur le terrain ou pour imposer un modèle.
Vous savez, là où on a fait nos enquêtes, les zones frontalières, ce sont des zones encore pas très bien occupées par l'État. Et donc dans ces zones, ils sont toujours là. Ils empêchent l'école à la française, l'école européenne, là où on enseigne le français et le savoir non coranique. Donc ils veulent fermer ces écoles parce que pour eux, c'est des écoles d'occidentalisation, c'est des écoles d'endoctrinement des idées anti-islam. Mais ça se fait vraiment dans les parties périphériques non encore occupées par l'État. Vous savez, l'État s'est effondré en 2012 et la reconstitution va très lentement. Certes, le nombre d'écoles non ouvertes chaque année, ça diminue, mais il y a toujours plus de 100 000 enfants qui ne vont pas à l'école parce que les écoles restent fermées.
Madame Nkiran, vous voulez intervenir?
Oui, par rapport à cette question de Boko Haram et de la relation au système d'éducation. Déjà, le nom Boko Haram, l'historique de ce nom est très intéressante. Parce que Boko Haram, c'est le nom que l'on a donné à cette mouvance, mais ils ont un nom tout à fait différent qui s'inscrit dans des dominations très associations des gens de la Sunna pour la prédication et le djihad. Donc quelque chose qui se situe dans une voie très classique salafi. Mais ce nom Boko Haram, qu'est-ce qu'il désigne? Ça veut dire Boko, donc book, l'éducation, le livre, à l'occidental, l'éducation, et Haram, interdite. Mais ce n'est pas tellement le motif de cette secte. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que durant les années 2000, il y avait les leaders de cette secte qui s'adressaient à des jeunes diplômés issus justement de l'école moderne, etc., en s'adressant à eux. Vous avez des diplômes à l'occidental, vous avez des formations, qu'est-ce que ça vous a apporté? Est-ce que vous avez un accès au travail? Est-ce que vous avez une promotion? Rien. Donc, ça ne vous a servi à rien. Rejoignez-nous, rejoignez le camp de la religion. Et donc, dans ces meetings, certains diplômés chômeurs auraient déchiré leur diplôme et les journalistes auraient donné ce sobriquet de Boko Haram. Donc c'est important de comprendre l'historique. Mais ça traduit aussi, en réalité, donc ce rapport de dire c'est pas que cette secte était contre l'éducation à l'occidental, c'est le fait que cette éducation à l'occidental n'aboutit pas auprès de certaines populations, que même pour ceux qui passeraient par cette éducation, il n'y a pas de promotion véritable. Alors, d'un autre côté, ce qu'on peut voir aussi dans cette crise, et je crois que là, Claude Mbou pourra en parler plus en détail, mais ce qui me paraissait intéressant, c'est de voir que la base sociologique de Boko Haram, donc les jeunes déclassés, viennent en partie d'un système d'éducation traditionnelle religieux, le système Al-Mahajiri, qui est très présent au Nigeria et qui, en fait, est complètement déclassé, en déshérence, complètement déconnecté de tout système de formation, d'apprentissage de la lecture, de l'écriture, du calcul. Donc c'est des formes d'école coranique, mais disons, les enfants suivent un maître, quittent leur famille, donc ne sont plus attachés à la famille. Et donc, déjà même avant Boko Haram, ces jeunes, par millions, parce qu'il y aurait près de 6 millions de jeunes qui suivraient ces systèmes, en tout cas au Nigeria, la moitié dans le nord-est du Nigeria, le bastion de Boko Haram.
Qui souvent aussi incorpore un système de mendicité organisé pour le bénéfice du leader, du marabout, du maître.
C'est des méthodes d'enseignement archaïques qui n'ont pas été adaptées. Ce système Al-Majari, pendant des siècles, a été un instrument d'instruction et d'islamisation, mais qui aujourd'hui est totalement anachronique. Et cette déshérence fait que c'est ce bastion-là qui est vraiment le fond sociologique. Et donc, si vous voulez, l'enjeu de cette radicalisation, c'est un affrontement de plusieurs élites. L'élite occidentale, l'élite francophone, l'élite arabophone qui s'inspire de méthodes plus traditionnelles. Et le fait du déclassement, que ce système traditionnel local n'est plus aussi valorisé en décrochage, expliquerait aussi ce potentiel de violence.
Claude Mahou, par rapport au Cameroun.
Il faut nécessairement faire le lien avec ce qu'on peut appeler la crise de l'État. L'État qui doit devenir la chose des gens et non la chose d'une élite parce qu'on a construit les États par le haut. Sauf que cette construction par le haut n'a pas pris racine. Les mécanismes de clientélisme communautaire qui permettaient de maintenir ce système est aujourd'hui épuisé à la faveur de nouveaux enjeux. Ces sociétés qui étaient des sociétés de marge sont ouvertes aujourd'hui. Il n'y a plus de société refermée sur elle. Le temps mondial rejoint les temps locaux par la prédication salafiste. Par exemple, le capitalisme a rayonné jusqu'aux confins de ces sociétés à travers les plantations de coton. Et les inégalités sont aujourd'hui plus perceptibles parce que les gens sont de plus en plus ouverts au monde, accèdent aux écrans, même dans ces villages, et se mettent à rêver d'autres choses, rêver d'autres mondes, d'autres possibles. Donc c'est toutes ces contradictions-là qui me semblent structurer en profondeur les crises que nous voyons aujourd'hui travailler ces espaces.
Claude Mbou à l'instant, l'un des auteurs de cette étude intitulée « Radicalisation, violence et insécurité, ce que disent 800 Sahéliens ». Il était à votre micro, Fabien Unenberger. Merci beaucoup. À noter qu'on retrouvera aussi des extraits de cet entretien ce soir dans Haute Fréquence.
Oui, ça permettra d'éclairer le témoignage de Sébastien Chadeau-Pétronin, qu'on a entendu donc au début de cette émission, mais qu'on entendra plus largement ce soir dans Haute Fréquence, à 19h sur la première. Sébastien Chadeau-Pétronin, je le rappelle, qui est le fils de la dernière otage française détenue au Mali.
C'est noté. Merci beaucoup, Fabien Unenberger, et très bonne fin de matinée à vous. Dimanche prochain, nous parlerons de toute autre chose, soit de l'art de choisir. Merci à Fred Bernard d'avoir réalisé cette émission. Merci aussi à nos deux assistantes de production, Nicole Corpato et Nicole Fontana. Babel, c'est tout pour aujourd'hui. Pour toute réécoute ou podcast, une seule adresse, rtsreligion.ch. Vous pouvez aussi réagir et nous faire part de votre sentiment, de vos questions sur notre répondeur. C'est le 058 236 60 70. À noter encore que Reda Benkiran sera l'invité de Sous les pavés, samedi 24 à 17h sur cette même antenne. Tout de suite, vous avez rendez-vous avec Poussière d'étoiles et Jean-Pierre Amann. Très belle suite d'écoute sur Espace 2. Au revoir.